Alors, frères et sœurs, je suis un privilégié, et vous êtes aussi des privilégiés. Alors, pourquoi ? Simplement parce qu'on a ceci, on a la parole de Dieu. On a cette chance de pouvoir l'avoir, et notamment en France, assez facilement, même très facilement. Et cette parole de Dieu qui nous permet justement de découvrir qui est Dieu, de le connaître, de voir son amour pour nous, de voir ce salut qu'il a placé devant nous, qu'il nous faut choisir maintenant si nous voulons vivre. Cette parole de Dieu qui est aussi un guide pour savoir comment vivre au quotidien, ou essayer de comprendre comment réagir, comment se comporter, ou aussi pourquoi telle chose existe, pourquoi telle chose se passe de telle ou telle manière. Alors je dis quand même essayer de comprendre parce que, voilà, malgré toutes nos tentatives, toute notre bonne volonté, toutes peut-être les heures aussi qu'on pourrait passer à lire la parole, à méditer la parole, il restera toujours une part de mystère, des choses qu'on ne pourra pas comprendre, ou en tout cas pas tout de suite, et pour lesquelles on devra attendre le retour du Seigneur, ce jour où tout nous sera révélé. Mais en attendant, voilà, il est parfois quand même difficile de ne pas tout comprendre et de ne pas pouvoir tout expliquer. Et d'autant plus quand nous pouvons rencontrer des difficultés, quand on peut rencontrer des souffrances dans notre vie. D'autant plus aussi quand nous voyons ce monde qui se détourne, lui, toujours plus de Dieu, en toute chose, et qui pourtant peut nous sembler parfois vivre heureux, dans l'insouciance, dans le bonheur, parfois même avec plus de facilité au final que les chrétiens. Mais alors comment l'expliquer ? Comment expliquer cela ? Comment ne pas se demander aussi si on a raison de croire en Dieu ? Raison d'essayer de le suivre, de dire non à certaines choses justement que ce monde nous propose ? Est-ce que ce bonheur proposé par le monde qui est visible dans ce monde ne vaudrait-il pas mieux peut-être justement que ce que le Seigneur nous propose ? Et c'est même, j'ai envie de dire, facile au final de tomber dans la remise en question de la justice, de la sagesse et même de l'action de Dieu quand on voit tout ça. Et c'est là où je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est des privilégiés. Parce qu'on a ce privilège que la parole de Dieu soit là, qu'elle nous présente aussi la vie d'hommes, de femmes, des femmes de foi, des hommes de foi, mais des hommes et des femmes qui étaient comme nous aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des faiblesses, qui ont aussi lutté, qui ont aussi fait face à des incompréhensions. Et ce matin, je vais prendre avec vous le psaume 73. Le psaume 73 où Asaph, justement, est un de ces hommes. Un homme qui, en regardant le monde autour de lui, à cette époque, justement, n'arrivait pas à expliquer, n'arrivait pas à concilier la souffrance des justes avec la réussite des méchants. Alors je vous propose déjà de lire le texte, donc psaume 73, donc psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi ce peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Quand ma songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Dieu est bon. C'est le premier verset de ce psaume. Premier verset qui pourrait être à la fois une introduction, mais également, au final, la conclusion aussi de ce psaume. Dieu est bon. C'est une certitude qui nous rassure aussi et qui est nécessaire de toujours garder aussi dans notre esprit. Oui, Dieu est bon, c'est une affirmation juste, qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises dans la Bible. On peut voir que Dieu y annonce des bénédictions à ceux qui lui obéissent, aussi des malédictions à ceux qui désobéissent à la loi de Dieu. C'est une vérité importante, mais pour laquelle il faut faire attention aussi à ce que ça ne devient pas juste un principe, juste une loi mécanique, qu'on peut répéter machinalement, sans vraiment réaliser maintenant plus ce que ça signifie. Parce que c'est un peu ça que le verset 3 nous montre, justement, c'est qu'il ne suffit pas de savoir ou de dire que Dieu est bon pour que tout soit résolu. Ce n'est pas une phrase magique qui va nous préserver de tout. Ici, Asaph dit, « Voilà, toutefois, mon pied allait fléchir. » Il savait que Dieu était bon. Asaph, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même quelqu'un qui avait aussi un rôle dans le culte, en tout cas qui avait été missionné par David, c'est un lévite, qui était chef musicien aussi, pour conduire aussi la louange, pour participer à cette animation aussi. Des moments qui étaient consacrés au Seigneur. Il était instruit, donc il connaissait quand même cette bonté de Dieu pour le peuple. Et pourtant, quand Asaph a regardé autour de lui, il a commencé à se demander s'il avait fait un peu le bon choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a vu deux choses autour de lui. Il y a vu justement donc cette prospérité des méchants, mais aussi le fait que des hommes justes souffraient. Et c'est là où cette assurance justement de la bonté de Dieu se confronte à la réalité terrestre. Une réalité où il peut être facile de croire en la bonté de Dieu pour nous quand tout va bien. Mais comment croire en la bonté de Dieu quand, en tant qu'enfant de Dieu, il se produit des événements dramatiques, que ce soit des assassinats, des viols, des vols, même de nos proches. Quand il y a des décès dans les familles aussi, qu'on ne comprend pas, qui ne nous semblent pas normaux ou injustes. Quand on voit aussi des frères, des sœurs en Christ, qui sont forts dans la foi, mais qui souffrent. On le voit avec Job dans la Bible, qui souffrait, lui dont les enfants sont morts, dont la fortune a été dilapidée, dont la femme l'a découragé, ses amis même l'ont accusé. Il avait aussi la maladie. Alors oui, où est la bonté de l'Éternel quand le juste souffre alors qu'autour le méchant réussit et prospère ? Dans un monde juste, encore une fois, la bonté de Dieu serait facile à discerner. Les bons prospéreraient et les injustes périraient. Et chacun recevrait ce qu'il mérite. Mais aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, la réalité n'est pas celle-ci. Et c'est vraiment ce qui est en train de troubler ici Asaph, c'est ce qui peut troubler le croyant, peut-être ce qui vous trouble aussi parfois, vous. Les méchants prospèrent plus que les justes qui souffrent. Et c'est vraiment cette réalité que Asaph là nous décrit dans la suite, notamment des versets 4 à 14. Alors je ne vais pas relire tous les versets, justement du 4 à 14, mais ça nous dresse un tableau de cette prospérité des méchants. Et qu'est-ce qu'on y voit donc des hommes et des femmes sans crainte, sans tourmente, pendant toute leur vie. Je pense qu'on serait plusieurs à vraiment avoir aucun souci, aucune crainte, ne pas être tourmenté. On aimerait bien avoir ça. Des hommes et des femmes qui étaient dans l'opulence, on le voit alors en bon point, qui est quand même un signe de richesse. Et des hommes et des femmes qui pourtant sont remplis d'orgueil, de violence, avec un cœur rempli d'iniquité. Des hommes et des femmes qui ne maîtrisent pas, qui essayent même pas d'ailleurs de maîtriser leur langage. Ils sont moqueurs, hautains, ils menacent. Des hommes et des femmes aussi qui influencent le reste du monde, qui l'attirent à les suivre, à vivre comme eux, à boire leur enseignement. Le texte nous dit « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. » Oui, cette réalité a une influence sur le reste du monde. Dans le verset que je viens de lire, son peuple se tourne de leur côté. Asaph parle d'abord des non-croyants qui, séduits par cette prospérité, vont toujours se plonger plus avant dans le péché, vont être subjugués par ce qu'ils vont voir, par cette opulence de tout, cette réussite. Mais c'est aussi une influence qui est valable pour le peuple de Dieu. Il y a certains commentaires d'ailleurs qui prennent le pronom « son peuple » en le référant à Dieu, au peuple de Dieu, pour montrer aussi, c'est que ça, le peuple de Dieu lui-même peut se laisser entraîner aussi avec ce spectacle justement de l'impunité des méchants. Alors oui, on peut comprendre, je pense, ce questionnement, cet attrait notamment même quand on voit que, même Malachi le dit au chapitre 3, verset 15, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. On peut vraiment comprendre cette interrogation, cette incompréhension. Parce que, comment ne pas se demander, encore une fois, ai-je eu raison de rester fidèle jusqu'à aujourd'hui ? Qu'ai-je gagné ? Des efforts, pourquoi ? Est-ce qu'on ne voit pas plus souvent d'ailleurs l'ingratitude comme résultat à une vie de dévouement, de sacrifice ? Est-ce que nos prières sont écoutées ? Et cette pensée, c'est vraiment la pensée aussi du monde d'aujourd'hui. Suivre Dieu n'apporte rien, donc autant faire sans. Et c'est même proclamé donc par le monde, qui haut et fort d'ailleurs va dire qu'il est non-croyant, et va s'affirmer non-croyant. Et ça peut même être quelque chose qui apporte une preuve à ceux qui doutent, justement, que Dieu laisse aller le monde, que Dieu ne s'inquiète pas du monde. En tout cas, ils vont prendre ça comme preuve. Peut-être même au point de vouloir changer de place avec eux, de devenir un des leurs, de ne plus avoir à faire des sacrifices, de ne plus avoir à faire certains choix, parfois difficiles, mais qui sont nécessaires si on veut suivre Dieu. Alors, avant de continuer un peu, je vais faire une petite parenthèse avec une première question quand même qu'on peut se poser, c'est mais, oui on ne comprend pas, mais déjà, pourquoi Dieu quand même dispense-t-il ses bienfaits sur les méchants ? Alors là-dessus, la première chose qu'il faut vraiment comprendre et retenir, c'est que, on l'a encore une fois chanté, mais Dieu est souverain. Donc au final, on ne devrait même pas se poser cette question-là. Dieu fait ce qu'il veut, on l'a chanté. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes, nous dit Job au chapitre 21. Ou Daniel au chapitre 4 aussi nous dit « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise « Que fais-tu ?» Le chapitre 21 de Job que j'ai cité, c'est aussi un moment où Job réfute justement cette idée que de toute façon, les pécheurs ne peuvent pas connaître la richesse ni le bonheur dans ce monde. Il explique que c'est faux, et même encore une fois que cette réalité, c'est peut-être l'inverse aujourd'hui. Et donc pourquoi Dieu dispense ses bienfaits sur les méchants ? Simplement parce qu'on est encore dans un temps aussi où la providence divine s'applique à tous. Matthieu 5, 45 nous dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Parce que oui, Dieu transmet ses bénédictions à tous les hommes, à toutes les femmes, sans distinction. Comme il l'entend, non seulement à son peuple donc, mais aussi à tous, encore une fois selon son bon vouloir. Les aspects agréables de sa grâce, comme les aspects désagréables, peuvent atteindre sans discrimination toute personne. La santé, comme la maladie, la richesse, comme la pauvreté. le bien-être comme la souffrance, le succès ou l'échec. Le but de Dieu n'est pas de détruire aujourd'hui ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui lui désobéissent. En fait, il leur laisse aussi encore un temps, justement un temps pour qu'ils puissent accepter sa grâce, son salut. Et pendant ce temps qu'il laisse, vraiment, on doit accepter que cette grâce commune, on peut dire, s'applique et retombe sur chacun, selon sa volonté. Et c'est vraiment ce qui a troublé Asaph, c'est que il cherchait en vain cette loi d'amour et de justice de Dieu dans ce qu'il y avait autour de lui. Voilà, il se demandait, mais où se trouve la justice de Dieu ? Et un sentiment d'injustice, je pense que c'est même plus difficile encore à vivre que peut-être... Alors, là, Dieu me bénit chaque jour, mais que la pauvreté, que la souffrance, que la maladie, je pense que l'injustice, c'est quelque chose qui est vraiment encore plus difficile à comprendre et à accepter. Et il faut vraiment se dire que Dieu travaille dans une œuvre qui se poursuit à travers les siècles, avec son regard qui est éternel, qui contient lui seul voilà, la mesure de tout ce qu'il a, de tout son plan. Une œuvre voilà, qui nous dépasse. Et il faut se dire que ce n'est pas parce qu'il y a des zones d'obscurité, des mystères dans cela, que l'explication nous échappe, nous manque, que l'injustice nous semble même présente, qu'on doit tout remettre en cause, qu'on doit douter de tout. Mais vraiment, Asaph, c'est cette injustice qu'il voyait devant lui qui l'a conduit à envier la condition des méchants. Pour autant, il n'est pas allé avec eux. Et pourquoi ? C'est la suite du psaume, à partir du verset 15 qui nous en parle, jusqu'au 20 à peu près. D'abord parce que, je vais dire, il n'a pas agi ou réagi devant ce qu'il voyait de manière précipitée. Il n'a pas foncé tête baissée en disant « ça a l'air super, j'y vais ». Non. Tout ce qui est relaté en fait ici se passe où ? Se passe dans l'esprit, dans le cœur d'Asaph. C'est sa réflexion, il a constaté quelque chose, il y réfléchit, voilà, il y pense, il se pose des questions. Mais avant de faire quoi que ce soit, il le dit bien, il a dit « j'ai réfléchi là-dessus ». Il a réfléchi pour savoir justement, ça le trouble, comment je peux concilier cette prospérité des méchants avec la justice de Dieu. Je sais que la justice existe, mais comment je fais ? Et oui, parce que même s'il y a des questions qui se posent, même s'il y a le doute qui est présent, voire même l'envie, il ne veut pas succomber à la tentation sans vraiment, au préalable, réfléchir à ce que ça signifie, s'il y va, à ce que ça implique aussi. Et ça, c'est un exemple aussi que je vous invite à suivre, hein, c'est arrêtons-nous, réfléchissons sur ce qui nous trouble. Et n'agissons pas sans réfléchir. Et même, si je prends encore le texte, c'est même pas n'agissons pas, c'est même, pour aller plus loin, c'est ne disons pas non plus certaines choses de notre bouche sans réfléchir, parce que même des paroles d'envie ne doivent sortir de notre bouche. Il dit, si je disais je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. C'est-à-dire, il est tiraillé, il ressent le désir de rejoindre ce clan des méchants qui a l'air de prospérer, qui prospère, mais il sent aussi peser sur lui l'influence que sa décision aurait sur le peuple de Dieu. Il ne veut pas être responsable aussi justement de cette influence mauvaise pour le coup. Ce que Paul partage aussi d'ailleurs dans un certain sens dans 2 Corinthiens au chapitre 6 en disant « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Et la liste continue après, dans la suite des versets. Alors qu'il a toutes ces pensées négatives, de jalousie même, à sa conscience s'éveille, et sa volonté intervient. Et c'est aussi une autre question qu'on peut se demander ce matin, en tout cas qu'on peut se poser à nous-mêmes, c'est mais comment j'accueille de telles pensées dans mon esprit et dans mon cœur ? Est-ce que j'écoute justement ma conscience qui va peut-être m'amener à me poser des questions, à réfléchir, ou est-ce que je la laisse de côté et je laisse mes pensées me guider et j'y vais ? Alors oui, il faut se poser des questions, il faut réfléchir sur ce qui nous trouble. Maintenant, Si on le fait comme Asaph le fait au départ, et que l'on réfléchit que par nos propres capacités, tout comme lui, on va être déçu, parce que ça va être difficile d'y voir plus clair. Calvin disait sur le verset 16 là, du psaume 73 que le psalmiste nous montre jusqu'où l'homme peut arriver avec les seules lumières de sa raison. Parce qu'on est limité. Et encore une fois, il y a des questions que notre raison humaine sera impuissante à résoudre. Il y a des mystères que la science ne tranchera jamais, malgré tous les progrès qu'on fait. Il y a des mystères que la science ne saura pas expliquer. Alors on peut toujours essayer de reléguer ces sujets sur le côté, ces sujets qui nous gênent, on peut essayer de vivre, penser, agir comme s'ils n'existaient pas, et pour certains, ça marche, ou en tout cas ils en ont l'impression. Mais on n'est pas tous capables de vivre sans prêter attention à ces questions. Certains ont besoin d'une réponse, bien souvent à ces questions éternelles. Et certains ont besoin d'une consolation, d'une espérance aussi, face à leur souffrance. Mais alors, où trouver la réponse si, malgré tous nos efforts, on ne peut pas la trouver par nous-mêmes? Est-ce que ça sera auprès d'autres grands savants, de personnes très érudites, dans des bibliothèques remplies de livres de tout genre, sur la science, l'histoire, la philosophie? Si je suis un peu plus moderne, sur Internet, où on peut tout trouver normalement, en tout cas c'est ce qu'on dit. Mais non, la réponse est ailleurs. Et si vous voulez justement trouver cette réponse, si vous voulez entendre cette réponse, il vous faut aussi, comme Asaph, ensuite, pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pénétrer dans les sanctuaires de Dieu? Ça veut dire qu'il nous faut chercher Dieu dans la prière. Nous placer humblement à ses pieds. Ça veut dire qu'il nous faut chercher Dieu dans sa parole. Dans cette parole qu'il nous a donnée, qu'on lit encore donc ce matin ensemble. Parce que c'est quand on arrive là où est Dieu, où Dieu est, que quand on commence à regarder vers le ciel, quand on regarde comme Dieu voit, parce que c'est alors là qu'on va entrer dans sa justice. C'est alors qu'on va regarder avec les attributs de Dieu et non plus avec notre vue à nous. Je vais reprendre un deuxième commentaire de Calvin aussi qui disait « C'est dans la parole de Dieu qui est déposée dans le sanctuaire et dans l'illumination intérieure qui est l'œuvre du Saint-Esprit » que l'homme trouve les lumières et la paix que sa raison ne saurait lui donner. Et oui, c'est auprès de Dieu, en se mettant en communion avec lui, qu'Asaph a enfin trouvé la solution au doute qu'il tourmentait, que la lumière, au final, s'est faite dans son cœur. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a en fait réussi à changer de perspective. Au lieu de regarder à aujourd'hui, à ce qu'il y avait autour de lui, mais il s'est rappelé quoi? Il s'est rappelé le sort des méchants. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'il ne les a pas suivis. Parce que dans cette perspective d'éternité, il a compris qu'au final, il avait une fausse vision de la providence. Il a compris que cette prospérité même, qui faisait son étonnement, qu'il enviait, cette prospérité, au final, elle conduit les méchants à une ruine complète. Alors que pour lui, lui a, pour bien suprême, dans cette vie et pour l'éternité, Dieu lui-même. Et si aujourd'hui Dieu manifeste surtout sa grâce envers les hommes, envers tous les hommes, il n'en reste pas moins vrai que son jugement se présentera un jour. Et être sur des voies glissantes, exterminé par une fin soudaine, repoussé loin du Seigneur, réduit au silence, périr, ce qui est écrit aussi dans le psaume, justement pour ce sort des méchants, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite pour moi, cette perspective en tout cas est moins intéressante, moins enviable que la vision présentée au début du psaume. Et oui, Asaph a pris conscience vraiment que ceux qui placent leur espérance, leur joie, leur confiance dans des biens matériels, vivent dans l'illusion, qu'ils passent à côté de la réalité, qu'ils passent à côté d'une vérité divine et éternelle. J'ai cité tout à l'heure Malachie 3, je vais reprendre ce passage qui va du verset 13, donc chapitre 3, verset 13, jusqu'au chapitre 4, verset 3, qui reprend le même thème et qui nous dit aussi, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Oui, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Parce que Dieu rétablira l'ordre des choses, la justice sera rétablie, et l'homme qui fait aujourd'hui tout impunément sera alors jugé. Et un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel. Alors là, mais vraiment, que pouvons-nous espérer de plus? Dieu se souvient de tous ceux qui lui sont restés fidèles. Et ça, c'est vraiment un motif qui doit nous pousser à la reconnaissance envers lui, plutôt que à envier ce monde, plutôt qu'envier un bonheur terrestre éphémère. Et la fin de ce psaume, c'est aussi avec une reconnaissance justement que Asaph le termine. Une reconnaissance de ce que Dieu l'a soutenu dans cette, on va dire, crise, dans cette réflexion, dans ses doutes, dans cette incompréhension qui était pénible pour lui. Une reconnaissance également pour exprimer sa confiance en Dieu pour l'avenir. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants sans soutien, sans aide. C'est écrit aussi, « Il sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage », nous dit Asaph. Mais il dit aussi, « Tu m'as saisi la main droite ». Dans notre version, on voit « empoigner la main droite ». C'est une image qui est forte. Hein. Empoigner la main droite, il nous tient, il ne nous lâche pas. On est entre les mains du Seigneur de notre naissance à notre mort, mais même encore plus loin. Justement avec le salut proposé par Dieu, avec la résurrection et l'espérance qui nous est donnée. Et d'ailleurs, les versets 23 et 24, on pourrait dire même qu'au final, c'est rien d'autre que le plan du salut qui est proposé par Dieu. Tu m'as saisi, tu me conduiras et tu me recevras dans ta gloire. Alors oui, Asaph est maintenant sorti de cette tentation. Il se confie pleinement dans la force, dans la sagesse, dans la grâce divine. Il ne cherchera pas au final donc la prospérité pour aller rivaliser peut-être même aussi. Avec l'orgueil, on a toujours envie d'avoir plus aussi. Non, il voit qu'avec Dieu, en Dieu, il a tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin. Et même si, pour ça, il doit continuer à être tourmenté toute la journée, châtié chaque matin, sa part en Dieu lui suffit amplement. Et il ne murmura plus. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu dire aussi ce que l'apôtre Paul nous partage aussi dans Galates, chapitre 6, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Alors ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alors pour conclure ce matin, je vais vous laisser avec quatre points par rapport à ce psaume. Le premier point, c'est une question qui est celle-ci. Quel bonheur recherchez-vous? Un bonheur éphémère, une prospérité temporaire? Ou mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu? En gardant à l'esprit que Dieu est rempli de sagesse, Dieu est souverain, mais avec aussi une certitude qui est que un jour justice sera rendue. Le second point, c'est une invitation. Une invitation à toujours persévérer. Une invitation à ne pas céder à la tentation d'aller vers l'équation, peut-être qui dit qu'une vie facile, c'est la preuve de la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu est présente, encore une fois, également dans la souffrance. Et Job nous le dit aussi au chapitre 2 dans le livre, hein, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, ce qui nous dit bien que c'est la vérité. Donc oui, apprenons à toujours regarder la vie présente avec cette perspective vraiment d'éternité, parce que les croyants sont et seront toujours bénis par la providence de Dieu, peu importe les circonstances de notre vie. Le troisième point, c'est un avertissement. C'est un point que je ne vais pas forcément développer, mes frères et sœurs, je vous invite à faire attention à l'évangile de la prospérité. Parce qu'il n'y a pas que dans le monde qui ne se dit pas chrétien qu'on peut voir des mauvaises influences. Et cet évangile de la prospérité, rien qu'en voyant en lisant ce qu'on a lu ce matin, on voit bien que c'est un mensonge qui se propage malheureusement, mais c'est un mensonge. Et c'est un danger aussi justement pour les croyants qui ne pénètrent pas, ou en tout cas pas suffisamment dans les sanctuaires de Dieu. Pour ceux qui cherchent justement les solutions, les réponses en eux et pas auprès de Dieu. Donc il faut vraiment faire attention aussi à cette influence qu'on peut parfois retrouver malheureusement dans des églises. Et le dernier point, c'est une autre invitation que je vous adresse ce matin. C'est « Ayez de la compassion ». Alors, ma femme fait les petits classes ce matin, mais elle pourrait vous le dire. Malheureusement, la compassion n'est pas l'aspect dans lequel j'excelle le plus. Me mettre à la place des autres n'est pas toujours facile pour moi. Et pourtant, c'est comme cela, c'est avec ce regard de compassion qu'il faut voir les méchants et ce monde perdu. Non pas donc dans un esprit de jalousie, voire de vengeance, mais vraiment dans cet esprit de compassion et d'amour. Et ça, c'est vraiment possible que si on change de perspective, comme on l'a dit tout à l'heure. Regardez à ce qui arrivera à la fin, au retour du Seigneur. Il faut vraiment qu'on comprenne, qu'on réalise ce qui va se passer. Que, alors même que jusqu'à la fin, tout semble sourire à celui qui vit sans Dieu, il faut qu'on pense au jugement inévitable qui les attend, parce qu'on sait ce qui va arriver. Il faut qu'on pense à chacun des hommes, à chacune de ces femmes, à ce moment où ils vont rencontrer Dieu, où ils seront face à lui, face à Jésus, et qui va leur demander « Mais qu'as-tu fait de ton cœur et de ta vie ?» Alors au lieu de les envier, au lieu de les critiquer, au lieu de tout ça, on devrait plutôt être rempli de douleur, de peine, justement pour eux. Pour eux parce qu'ils sont aveugles aussi aujourd'hui sur ce sort qui les attend. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on réalise, ce qu'on doit voir, justement. Pour que ce soit maintenant des prières de compassion qui sortent de notre bouche. Pour que ce soit des prières pour toutes ces âmes perdues. Et qu'ainsi nous ayons vraiment à cœur de servir le Seigneur, de l'annoncer, plutôt que de douter de lui. Amen.